Classique 21, you rock.
Radio Caroline.
Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
Salut, heureux de vous retrouver à mes côtés sur le pont du cargo de Radio Caroline, sillonnant les bonnes ondes de Classique 21 et aujourd'hui les good vibes des lieux mythiques qui ont dopé, rythmé, transcendé les nuits bruxelloises à la toute fin des 70s, dans les années 80 et pour certains jusqu'au début des années 90. Des clubs qui s'appelait Mirano Continental, Garage, Canotier, Classique, Circus, Raffinerie du Plan K, Alka-Seltzer, entre autres. Des boîtes dans l'histoire desquelles je me propose de vous emmener lors de deux traversées, épopées passionnantes, imbibées du parfum d'une époque, mais également éclairées par les parcours singuliers de ceux qui ont créé ces fabuleux creusets où la nuit s'est tant de fois réinventée. Notre voyage débute une nuit de mars 1981 entre les places Madou et Saint-Josse à Bruxelles, un quartier sympathique mais a priori pas très glam ni hype à l'époque et qui va pourtant accueillir l'un des hauts lieux du clubbing belge. On y entre, je connais le sorteur. Commençons donc notre périple, je le disais, en mars 1981 au 38 chaussée de Louvain à Bruxelles, près de la place Madou et de la Petite Ceinture pour vous situer, alors que il est passé minuit et s'allument les néons de l'enseigne, de la proue, devrais-je dire, d'une discothèque, comme on disait, nommée Mirano Continental, un nouveau lieu, mais établi dans un ancien cinéma datant des années 30, avec balcon et ferronnerie, doté en cours de route d'une majestueuse entrée en forme d'entonnoir, et qui était à l'abandon depuis quelque temps. À l'époque, et pour pas mal d'années encore, il faut bien l'avouer, Bruxelles a davantage le profil d'une grande ville de province que d'une capitale digne de ce statut. Et les bars ou clubs à la page, novateurs, ne sont pas légion. Or, il est une bande de potes qui veut inscrire Bruxelles dans la constellation internationale du clubbing ou à tout le moins ouvrir une discothèque qui s'inspire du Studio 54 new-yorkais pour devenir la cousine belge du Palace parisien. Ses amis s'appellent Aldo Gigli, Marco Roland, Jacques Ossensbara et Paul Sterk. Paul Sterk qui, dans une interview, se rappelait le long cheminement qui, pour sa part, l'a mené à cette aventure du Mirano. « Quand j'avais 15 ans, il n'y avait rien pour les jeunes dans le quartier où je vivais, dit-il, et je voulais changer ça. Alors j'ai commencé à organiser des soirées, des booms dans des garages. C'était l'après-midi, souvent le samedi. De fil en aiguille, je me suis associé avec quelqu'un qui avait du matériel et ces événements se sont professionnalisés. Quelques années plus tard, on m'a proposé de reprendre un club, le Canotier, à Oudergem. C'était les années 70, on y organisait aussi des projections de films, des concerts. Personne ne faisait ça à l'époque. Le Canotier, sur lequel on reviendra lors de notre second épisode. Disons déjà qu'un certain Jean-Claude Maury en tenait les platines et qui bossait comme barman, d'abord, puis comme décorateur et graphiste, Aldo Gigli. Mais à l'aube des années 80, Paul Sterk et Aldo Gigli voient plus grand, veulent plus grand et tombent à Saint-Josse sur un cinéma fermé depuis quelques années, le Mirano Ciné, où ils embarqueront leur DJ chéri. Retrouvons Aldo Gigli, qui deviendra le directeur artistique du Mirano, Paul Sterk, qui en sera le patron, et Jean-Pierre Mels, son gérant, dans des interviews réalisées par RTBF Web Création.
J'ai découvert la nuit en travaillant barman et dans la salle, à l'époque le Gémeaux, qui est devenu le Canadien après. Et moi qui voyageais beaucoup, j'allais notamment à New York, j'ai toujours aimé New York, j'ai passé des bons moments extraordinaires, j'ai passé beaucoup d'années. Et j'étais à la période de l'ouverture du Studio 54. Et donc de ça, fait que nous deux à New York, on rêve. On se dit, tiens, si on fait ça à Bruxelles, ça serait pas mal, non? Mais on n'avait pas de pognon. C'est comme ça, un aventurier. Tout d'un coup, ça a germé, j'ai trouvé le Mirano, et j'ai dit, ça c'est l'endroit qu'il faut le four. Et voilà, on s'est éclaté. Ah bien, c'était le cinéma de mon quartier, parce que j'ai habité dans ce quartier un petit temps. Donc j'allais au cinéma, là, et donc je connaissais la salle. Et c'est par hasard que quelqu'un me parle qu'il est alloué, qui me donne le prix.
Avant ça, c'était un cinéma, mais qui a arrêté son exploitation en 78. Donc il y a eu deux années de vide locatif. Quoi. Nous, on est arrivé en 80, et puis on a pris un an pour pouvoir conceptualiser l'endroit et de le mettre en place, et on a ouvert un an plus tard. La plupart de la technique lumière, nous l'avons inventée et construite. Il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui de disponible, LED, les changements de couleurs, les bras articulés, etc. Tout ça n'existait pas, quoi. Voilà.
On travaillait tous les jours, on bossait, on se remettait en question, on cherchait les nouvelles idées, on cherchait les nouvelles tendances, et on bossait, et on bossait, et on bossait.
Le fait que ce soit moins technologique qu'aujourd'hui faisait que l'innovation était apportée d'un crayon et d'un bout de papier. Tu vois, c'était très très simple comme ça, quelque part. Il fallait oser, quoi. Tu faisais des choses, tu osais.
Alors il y avait le monde des mannequins, le monde des photographes, le monde de la pub. On a eu la capacité de réunir tous ces gens-là chez nous.
Donc on n'a pas été super cool avec tous les clients, parce qu'on voulait sélectionner très fort, ce que n'est pas dans un esprit très belge de sélectionner comme ça, surtout à l'époque.
Donc il y a des belles gueules qui rentraient, des mecs avec des cheveux longs, des cheveux courts, des blagues, des beurres, il y avait de tout qui rentrait.
Bon, on a eu Prince, c'était un concert de Prince, aussi. Il avait chié son monde. On a eu aussi Chris Jones. J'ai dansé avec le chanteur de Van Halen, c'était fabuleux. Il m'a dit, c'est la plus belle boîte que j'ai vue de ma vie.
Lors du lancement du Mirano en 1981, se souvient encore Paul Sterk, les habitants du quartier allaient encore à la messe le dimanche et à 9h du matin, sur le parvis devant l'église, ils croisaient souvent nos clients et c'était pas triste parce qu'il y avait quand même des gens pas mal arrangés. Le Mirano, ce sera bien plus qu'une discothèque. On y présentera aussi des spectacles, des défilés de mode. Le tout premier défilé de Dries Van Noten aura lieu au Mirano, par exemple. Et les nuits seront régulièrement à thème, enrichies de décors hautement créatifs, souvent avant-gardistes et parfois même démesurés, bien que construits dans la semaine avec les moyens du bord, mais beaucoup d'inventivité. Les clubbeurs se parent, eux, de looks ad hoc, correspondant à ces thèmes et souvent, il faut bien le dire, extravagants. Au platine de 1981 à 1986, le mythique et regretté Jean-Claude Maury, on l'évoquait à l'instant, un ancien légionnaire français qui est arrivé à Bruxelles dans les années 70 et dont nous parle un autre DJ phare du Mirano et de quelques lieux emblématiques, mais d'une autre décennie, 90, Olivier Gosserie.
C'est quoi la musique de Jean-Claude Maury au Mirano? Ben, c'est tous les morceaux à la mode, tous les morceaux hype, tendance, Prince, Controversy, Roxy Music, C'est Molson, je pense aussi à Liaison Dangereuse, Los Niños del Parque, je pense à Herbie Hancock, Rock It, George Kranzin Dada, donc vraiment tous les morceaux à la mode de l'époque, mélangés, et c'est ça qui était atypique, avec des morceaux kitschissimes, popcorn, parce qu'il adorait le popcorn, Jean-Claude, donc je pense à Mange des tomates, Mon amour, de Jacques Harry, je pense à Bob Azam, Fais-moi du couscous chérie, ou chérie je t'aime, chérie je t'adore. Il y a Mustapha. Je pense aussi à, évidemment, Pierre-Henri, Michel Colombier. Donc là, vraiment, les prémices de la musique électronique en 1968. Musique composée pour un spectacle de Maurice Béjart. Ça, c'était vraiment un hymne au Mirano aussi. Messe pour le temps présent. Donc ça, tout ça, c'est Jean-Claude. Et Jean-Claude, c'était aussi quelqu'un qui cassait les codes, puisque à 3h du matin, au moment où la boîte était la plus remplie, il allait jouer un morceau comme Malcolm McLaren, Madame Butterfly, qui est clairement un morceau très lent, très atmosphérique. Ou un I Scare Myself de Thomas Dolby, qui est un morceau clairement lounge. Il allait jouer ça en plein coup de feu. Donc tout ça faisait un petit peu le charme hybride de la musique de Jean-Claude.
Mange des tomates, mon amour.
En 1985, on parlera du Mirano dans l'émission d'information régionale ce soir, mais pas pour la qualité de sa musique.
Décidément, on parle beaucoup de drogue ces temps-ci, ces jours-ci. À Bruxelles, il y a quelques jours, la police judiciaire opérait plusieurs arrestations dans un café de Schaerbeek. Et aujourd'hui, on apprenait la fermeture du célèbre dancing bruxellois, le Mirano. Ici aussi, il y a, semble-t-il, drogue sous roche. Les explications de David Oxley.
Le Les jeunes branchés bruxellois devront visiblement trouver un autre endroit que le Mirano pendant quelques semaines pour y passer leur soirée, puisque cette boîte bruxelloise a été en effet fermée et mise sous scellé lundi par la BSR, soi-disant pour un problème de sécurité contre l'incendie, mais on imagine mal que l'on mette des scellés quelque part uniquement pour une question de protection contre le feu. Certes, le dancing n'était pas en règle à cet égard depuis quelques temps, mais on le surveillait surtout pour des questions de drogue et de soirées très spéciales. Plusieurs perquisitions ont été effectuées la semaine passée et on suspectait la boîte d'être une nouvelle plaque tournante de la drogue bruxelloise. Certains considéraient le Mirano comme un endroit où on vendait de la cocaïne et du LSD et où en plus, pour couronner le tout, on organisait des soirées de débauche de mineurs dont nous avons déjà longuement parlé. Les clients habituels du Mirano disent ne rien avoir vu et il est clair que l'on ne fume pas de la drogue uniquement au Mirano et que beaucoup de boîtes bruxelloises connaissent ce genre de problème. Le parquet reste muet sur cette affaire, mais on peut évidemment faire des rapprochements. Des photos prises lors de ces soirées spéciales ont été saisies quelques jours avant que la boîte de nuit ne soit fermée. Ces photos ont peut-être permis de fermer le Mirano. En tout cas, il semblerait que cette fermeture marque une étape nouvelle et importante dans une enquête qui fait beaucoup parler d'elle dans la presse et où beaucoup de personnes du milieu du cinéma sont impliquées. À ce propos, une nouvelle arrestation a eu lieu hier à Bruxelles, celle d'un antiquaire bruxellois. En tout donc, 10 personnes sont sous les verrous pour débauche de mineurs et trafic de drogue, mais l'enquête est loin d'être terminée.
De débauche de mineurs, il ne fut en réalité jamais question au Mirano. Pour le reste, comme le confirmerait la truculente et inoubliable, pour ceux qui l'ont connue, Madame Pipi du Mirano, et comme le reconnaît le patron de l'époque, Paul Sterk, oui, il y avait de la drogue, récréative évidemment, ça faisait partie de l'antifatigue, et si notre public en consommait au bureau, bah forcément il en consommait au Mirano. Mais ça n'a jamais été glauque, poursuit-il, on faisait la chasse aux dealers, ça j'en voulais pas. La première descente de police fut spectaculaire avec des chiens et des mitraillettes. Je me souviens des clients qui faisaient la révolution sur la piste de danse en criant sur les flics. Quelques autres descentes de police liées aux stupéfiants jalonneront l'histoire du Mirano. Mais, on le disait, le lieu sera surtout l'écrin très prisé de soirées hype et parfois aussi solidaire, comme on s'en rend compte à l'écoute de l'agenda du magazine pour jeunes de la RTBF Félix en 1991.
Pour un monde sans réfugiés est le thème d'une soirée donnée le vendredi 23 novembre au Mirano Continental de Bruxelles. Avec entre autres participants, Danny Klein de Vaya Con Dios, Victor Laszlo, Joe Lemaire, Zap Mama, David Links, B.G. Scott, Kid Safari et Get Up, Get On Up, Boogie Boy. Tous réunis pour les démunis politiques. Alors rendez-vous au Mirano.
Et c'est la voix d'Errico Salamone. Deux ans plus tard, en 1993, l'ambiance se refroidit à nouveau.
Vers 6h30 ce matin, une voiture ralentit à la hauteur de la boîte de nuit. À bord, trois occupants, deux d'entre eux tirent, sans doute une rafale de mitraillettes. Plusieurs personnes sont blessées, dont une grièvement. Selon certaines informations, ce serait une femme. Selon d'autres, ce serait le portier du dancing. Sur la piste de danse, on n'a rien entendu. En revanche, dans le hall d'entrée, c'est rapidement la panique. Mais le véhicule disparaît aussitôt. Quand les inspecteurs de la police judiciaire arrivent, il n'y a plus grand monde. Juste quelques maigres indices. L'enquête ne sera pas facile. Certains parlent d'un règlement de compte, ce que nie le gérant du Mirano. Pour lui, il s'agirait plutôt d'une opération punitive menée par quelques clients mécontents.
De fait, les auteurs des coups de feu seront identifiés comme étant deux clients refoulés, frères, manque de bol, d'un des plus célèbres truands du pays et donc bien équipés, si vous voyez ce que je veux dire. Mais entre-temps, au début des 90s, le Mirano a raté le train de la house, et ne parlons pas de la techno, train dans lequel sont en revanche montés d'autres clubs qui ont éclos un peu partout dans le pays, en Flandre notamment. Le DJ Olivier Gosry sera appelé au Mirano pour tenter de rattraper ce retard et il y mixera avec grand talent dès 1994. Il mixera aussi parallèlement au Fuse, autre club qui ouvre cette année-là sur les cendres du disco Roro. Olivier Gosry devenant le DJ emblématique des Ouzouz Folies, soirée hétéroguée et glam conçue par Karl de Moncharlin au Mirano et puis au Fuse.
Quand un nouveau mouvement arrive, la génération qui précède le vomit. Le début de la house et de la techno, les gens vomissaient. C'était inaudible. C'était même pas imaginable. Et ça n'a pas été sans heurts. Et ce, même avec les gens du Mirano, qui étaient pourtant des créatifs. C'était un son qui était en rupture totale avec ce qui était passé avant. Le public gay qui est arrivé, qui était vraiment en marge à l'époque, a commencé à faire son coming out. Et donc on a commencé à associer des publics gays et hétéros ensemble. Et ça paraît aujourd'hui banal, mais il faut s'imaginer que même au Mirano, qui était pourtant la boîte la plus branchée de Belgique, être gay à l'époque, avant cette période-là, était très difficile.
Karl de Montcharline, dont les soirées Ouzouz Folies seront d'ailleurs accueillies à Paris par les bains-douches, le Queen et le Palace, c'est vous dire si elles étaient à la pointe, ces soirées. En 1996, Karl de Montcharline ouvrira son propre club, rue du Poinçon, le Ouzouz, avant qu'il ne soit fermé pour raisons administratives en 1999 par Dixit, notez moins unanime, le fossoyeur des nuits bruxelloises, à savoir le très conservateur bourgmestre de la ville de Bruxelles de l'époque. Je vous laisse chercher son nom.
Radio Caroline. Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
Autre club fondateur qui embrasera les nuits de la capitale dès 1982, quelques mois après le Mirano, est situé rue du Quesnoy, au cœur de Bruxelles, près de la Grand Place, le Garage. Au sujet duquel un ancien adepte raconte, c'était l'époque où on commençait sa soirée dans les bars de la rue des Dominicains, l'Imaginaire ou la Papaye Tropicale, pour ensuite migrer vers ce temple de la nuit, le Garage, qui fut aussi la première discothèque en Belgique à se doter de laser et d'un sound system dernier cri, de même qu'on y diffusait souvent des films sur grand écran. C'est vrai, je m'en souviens, film dont, évidemment, on avait coupé le son, bien sûr. Olivier Gosserie, que l'on retrouve, nous éclaire sur les différences entre ces deux clubs qui vivront simultanément leurs plus belles années durant la décennie 80.
Alors, la différence fondamentale qu'il y aurait entre le Mirano et le Garage dans les années 80, qui sont vraiment deux boîtes cultissime de la capitale à cette époque-là. Je dirais que d'abord, le Mirano ne marchait que le samedi. Ils ont beau eu essayer de faire tourner la boîte le jeudi ou le vendredi, rien n'y fit. Ça cartonnait le samedi, c'était le jour incontournable, c'était même le point de chute. Quand tous les autres endroits à Bruxelles fermaient, tous les membres du personnel se retrouvaient en after au Mirano, qui à l'époque fermait à pas d'heure, il n'y avait pas de balise, il n'y avait pas d'heure de fermeture. Ça pouvait fermer un samedi ordinaire à 9h du matin, 10h du matin, 11h du matin. Le Garage, par contre, était ouvert toutes les nuits. On savait d'office, si on voulait sortir un lundi soir, qu'il y avait le Garage. C'était un incontournable. La musique n'était pas tellement différente. C'était un petit peu la même playlist. Peut-être qu'au Garage, c'était un peu plus dark, un peu plus gothique. Robert, le DJ résident du Garage, étant vraiment très new wave, très rock, se faisait plaisir du lundi au mercredi, jouait vraiment sa playlist préférée. À partir du jeudi, il s'adaptait un peu au grand public. Mais je rappelle que le grand public qui sortait à ce moment-là écoutait aussi les DJ. On sortait d'abord pour écouter un DJ et découvrir des morceaux et non pas pour imposer une playlist qu'on avait dans son téléphone. Donc ça, c'était très agréable pour les DJ. Et voilà, sinon, ben, pour le Mirano, c'est un théâtre, c'est un ancien cinéma. Donc tout était très théâtralisé. Et ce qui était très amusant, c'est que si Jean-Claude partait dans un délire musical, comme c'était souvent le cas, et que quelqu'un osait le critiquer, il se faisait très vite remettre à sa place. Tu n'as pas compris le génie de Jean-Claude, tu n'as pas compris que ce qu'il jouait là-bas, c'était génial, c'est pas kitsch, c'est génial. Donc, il y avait une espèce de snobisme comme ça, très amusant par rapport à la playlist de Jean-Claude. Et par contre, au Garage, on prenait ça très au sérieux. Robert, c'était quelqu'un de consacré, c'est quelqu'un qu'on venait écouter, et là aussi, on venait écouter religieusement et on ne discutait pas ses choix musicaux.
Le Garage, ou le musical magazine Roxbox de la RTBF présenté par Ray Cox, décide en septembre 1986 de fêter son 50e numéro.
Hello, welcome to Roxbox Saturday Night Fever. Yes, today we're coming to you from a discotheque because this is our 50th anniversary. 5-0 programs we've been bringing you over the last year. And tonight we've decided to celebrate just a little in a downtown Brussels discotheque called The Garage.
Et parmi les invités, Orchestral Maneuvers in the Dark, OMD. Et c'est Andy qui répond aux questions de Ray. Qu'avez-vous fait ces derniers mois?
OMD, le dernier 45 tour Forever, Live and Die. Et maintenant, une petite conversation avec les deux principaux membres OMD, Andy and Paul. Hello.
Hi there.
Welcome and thank you very much for coming to Roxbox.
So tell us, what have you been up to in the last year?
We've been pretty busy. We did a very long tour. We were 9 months on the road, and mostly in America, actually, where we've had a bit of success recently, so we followed it up. And then we've spent most of this year, mainly the summer, writing the album we recorded in Paris. Mm.
Une tournée américaine et un album enregistré à Paris, donc, pour OMD. Toujours au sujet du garage, on peut lire dans Bruxelles 80, signé Yves Ringer et récemment publié par 180 degrés édition. J'y reviens dans un instant. Face au Cerbère qui filtrait les entrées au gré de ses humeurs, de votre plastique avantageuse, de votre tête d'habitué ou de votre look, la clientèle patientait avant d'atteindre son Graal. L'attente avait son charme, elle donnait l'occasion de mater les filles, de repérer les garçons, de rencontrer des copains ou de vagues connaissances, mais chacun avait le sentiment de faire partie d'une communauté de la nuit et de la danse. Quand il fallait requinquer l'estomac, écrit encore Yves Ringer, estomac trop vide ou trop rempli d'alcool, la rue des Pita en face permettait de se refaire une santé ou d'absorber l'éthanol. Ensuite, suivant leur état de fatigue, les joyeux lurons se contentaient de discuter, appuyés sur les carrosseries des envahissantes automobiles, ou décidaient de retourner s'enivrer dans le souffle des basses, la gorge et les yeux irrités par les volutes de fumée, quand la cigarette était encore tolérée partout et qu'elle faisait partie de la panoplie des accessoires indispensables. Le garage, dit encore Yves Ringer, fut une boîte de nuit de référence du centre-ville pendant quelques années avant de devenir le Sparrow, puis le You. Mais le vénérable et véritable oiseau de nuit bruxellois conservera toujours une préférence pour l'appellation d'origine. Extrait donc de Bruxelles 80, petit livre qui... Dixit à la saveur d'une gaufre de Proust, et je confirme, dans lequel son auteur, Yves Ringer, partage ses souvenirs des nombreux lieux qui furent autant de passages obligés et marquants, des balades et sorties adolescentes et vingtenaires, dans ce Bruxelles d'il y a quatre décennies. Et donc on rencontre dans ce petit livre bar, boutique de fringues, resto et bien sûr club comme... Entre autres, et dans le désordre, le disque rouge, le Dena, El Papagayo, la Gaieté, le Twins, l'Amour Fou, la librairie de Rome, la pâtisserie Nioule, le Sississi, la raffinerie du Planca, le Circus, le Classique et le glacier Zizi, qui existe toujours comme certaines de ses enseignes d'ailleurs. Et franchement, que vous les ayez connus, ces lieux, que ce Bruxelles englouti vous intrigue, je vous recommande ce petit livre qui n'est pas historique au sens savant du terme, mais savoureusement empirique. Bruxelles 80, Yves Ringer, 180 degrés édition, c'est dit. Pour les passionnés de musique, les nuits dans les clubs bruxelloises à la fin des 70s et dans les années 80 étaient précédées ou suivies d'un passage obligé par un disquaire mythique de la capitale, Caroline Musique, riche en disques import, où l'on pouvait acheter des vinyles que l'on n'entendait que la nuit dans ses boîtes, ou bien sûr... le week-end sur les ondes de... Radio Cité, programme fabuleux et novateur de la RTBF, créé, produit et animé entre autres par Marc Moulin, diffusé du samedi 9h au dimanche 19h en FM stéréo sur 93.2. Pour en revenir à Caroline Musique, la boutique existe toujours, désormais boulevard Anspach, face à l'ancienne Belgique, mais pendant une trentaine d'années, elle se trouvait logée dans une galerie qui a disparu, le passage Saint-Honoré, laquelle débouchait d'un côté rue des Fripiers, de l'autre rue Marché aux Poulets, entre la Monnaie et la Bourse donc. On avait fait importer d'Angleterre la caisse, le comptoir et le tourniquet qui se trouvaient à l'entrée et qui donc pour le gag se poussaient dans le sens contraire, racontera André Dard, dit Dédé, l'une des deux chevilles ouvrières du lieu. André Dard qui, pour Belgium Underground, se souvient des tout débuts de Caroline Musique.
C'était en septembre 77, donc juste après la mort d'Elvis. Et là, c'était vraiment la croix et la bannière pour trouver les disques à Bruxelles. Donc il fallait les chercher à Londres ou en Hollande. C'est ce qu'on faisait. On allait chercher sur place, dans les petites boutiques. Il y avait déjà Rough Trade, Lightning Records, il y en avait d'autres. Il y avait Steve là, chez Riviera, sur le coin. Et moi, j'allais régulièrement à Londres et on revenait avec des disques simplement dans des grosses valises. Je faisais ça avec mon collègue Christian, qui a fondé Sun & Vision après. Et alors, il y avait des jours où on rentrait de Londres, les clients savaient ça. Ils attendaient devant le magasin qu'on déballe pour voir ce qu'il y avait dans comme 45 tours et tout. Et à cette période-là, l'industrie ne voulait même pas travailler avec nous. Parce qu'il disait, il y avait déjà la Maison Bleue, il y avait Cadeau Radio, et c'est un concurrent en plus, donc il y avait une espèce de lobby des disquaires qui avait demandé à l'industrie de ne pas développer Caroline, quoi. Donc il a fallu qu'on prouve par le volume et par la renommée qu'on était intéressant pour eux, et après ils sont tous venus travailler avec nous.
Toujours à propos de ce disquaire, un client assidu, Yves Ringer, note dans son Bruxelles 80, le magasin comptait de nombreux fidèles qui étaient d'autant plus fiers d'acheter leurs précieux vinyles chez Caroline Musique que leurs sacs en plastique étaient des plus valorisants. Ornés du fameux dessin un peu ligne claire de la jolie jeune fille blonde à la boucle d'oreille en forme de note de musique, en format 45 ou 33 tours, ces sacs étaient un must qui se conservait précieusement tel un écrin qui avait accueilli le joyau musical que l'on venait d'acquérir. Je confirme et ne saurais mieux dire. Les places de concert s'achetaient aussi ici, poursuit notre ami, et il n'était pas rare d'y croiser des chanteurs à la mode de passage à Bruxelles, curieux d'y découvrir qui était encore plus tendance qu'eux. Alors pour info, si la localisation a changé, le magasin possède la même enseigne lumineuse d'origine avec ce même visage de jeune femme blonde sortie d'un dessin ligne claire. Les couleurs sont un peu passées, mais l'esprit d'origine n'est pas loin, en tout cas dans les recoins. Outre le Mirano et le garage, pour revenir à la nuit, il fut aussi d'autres lieux indés pointus et exaltants qui les ont précédés de peu et ont également fait scintiller les nuits bruxelloises dès la fin des 70s, comme le Canotier, le Classique, le Circus, le Planca et quelques autres. On y revient dans un prochain épisode de Radio Caroline. Celui-ci étant dédié à un oiseau de la nuit trop tôt disparu qui passa lui aussi par les platines du Canotier et celle du garage, un type formidable qui s'appelait Pascal Clark. Notre voyage à travers le Brussels by Night des années 80 et fin 70 se termine ici. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, eh bien n'hésitez pas à le faire savoir, à le partager, à l'étoiler. Belle journée ou belle nuit.
Retrouvez la version intégrale sur OVIO.
Découvrez toute l'offre podcast de votre radio préférée sur classique21.be.